Le Clubhouse, tous réunis autour du ballon ovale. Le Clubhouse sur CFM.
Bonsoir à tous, bienvenue sur CFM et dans Clubhouse, votre émission 100% rugby Tarn-et-Garonne de CFM Radio. Dernière émission de 29e ou 28e émission. 28e émission de la saison.
Saison 9.
De la saison 9.
On attaquera déjà. La 10e saison l'an prochain.
Déjà, donc la dernière de la saison.
On va la faire du coup.
Ah, ben, je sais pas, on verra. Ça fera 10 ans quand même.
On verra au mercato si on est reconduit.
Il faut voir les contrats, ouais.
Donc la dernière, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, puisqu'il y avait un petit trou hein, dans l'actualité rugbyistique du Tarn-et-Garonne. Juste, j'en profite pour donner le seul match qui s'est joué. C'était le Racing Club Montalbanais qui jouait sa demi-finale de promotion de Régional 1 et qui, malheureusement, a perdu 36-35. Cruelle défaite dans les toutes fins de match, alors qu'il menait encore de 9 points à 7 minutes de la fin. Voilà, dommage qu'ils n'aient pas pu concrétiser cette belle saison. Allez, on va passer, nous, à cette heure ensemble avec David Roninger. Salut David.
Salut Seb, bonsoir à tous.
Elsa Circelli est avec nous. Salut Elsa.
Salut Seb, bonsoir à tous.
Sébastien Kiotasso est là.
Salut Seb, bonsoir à tous.
Et notre Seb, Sébastien Topiac.
Salut Seb, bonsoir à tous.
Et fidèle au poste, Jubisme derrière les platines.
Salut à tous. Salut
et
à toutes.
Je vois que tu as ton adjoint, Rémi, qui est avec toi.
J'arrive pas à le larguer, ça fait 10 ans qu'il est là quand même. Ça va Rémi?
Ça va bien, concentre-toi.
Allez, merci d'être là pour cette dernière émission où on est quand même gâté, invité exceptionnel pour cette dernière. Ils nous font le plaisir de se déplacer dans nos studios avec, malgré, je l'imagine, un planning bien chargé avec nous ce soir. Donc, monsieur Jean-Claude Maillard, président de l'USM, bonsoir.
Bonsoir.
Et Johan Dallariva, le directeur général de l'USM.
Bonsoir.
Merci, merci d'être là. C'est un rendez-vous qui avait été plusieurs fois déplacé, mais voilà, on est très heureux de vous avoir. On va pouvoir analyser la saison passée, puis surtout se tourner vers le futur qui nous excite déjà, même que ce soit un pro des deux. Allez, on va commencer avec vous, président. Donc, président depuis 2019, puisque j'hésitais, 2019.
Novembre.
Voilà, novembre 2019. Ouais. Arrivée de Figeac, ouais. Juste pour refaire un peu l'histoire, comment êtes-vous arrivé à Montauban?
Moi, j'ai fait un modeste parcours de joueur amateur, en tout cas suffisamment pour avoir pris beaucoup de goût à ce sport. J'ai arrêté de jouer à 31 ans au GSF à Figeac. On était en 3e division à l'époque. Enfin, on était monté en 2e et on est redescendu. Juste après ma modeste carrière de rugbyman, j'ai fait une meilleure carrière d'industriel. Il y a quelques années, le Covid n'était pas encore là. Je me suis dit, je vais prendre la retraite, je serai jeune retraité et riche. Manque de peau, le Covid est arrivé. Il a bien secoué ma société. Du coup, je ne l'ai pas vendu et je l'ai pas. Et donc, je ne suis pas riche et je n'ai pas pris ma retraite. Donc, j'ai vieilli. Mais j'ai repris le club en novembre 2019. Donc, un peu plus de une année avant l'arrivée du Covid. Et quand en 2019, j'ai décidé de préparer ma retraite de jeune et riche retraité, qui, je le répète, n'est pas encore le cas, j'ai regardé à reprendre Aurillac, puis après Brive et après Montauban. Et pourquoi Aurillac, Brive et Montauban? Parce que par rapport à Figeac, j'ai agrandi le cercle. Donc, le premier club que j'ai attrapé, c'était Aurillac, qui est à moins de 60 km de chez moi. Le second, c'était Brive, qui était à 90 km. Les deux premiers n'ont pas marché et je me suis retrouvé à Montauban.
Non, mais on est très heureux de vous avoir appris.
Voilà. Et vous, à Montauban. Vous aviez des connaissances à Montauban?
Non.
Rugbyistique ou même professionnel?
Non.
Pas du tout?
Non, aucune.
D'accord.
Comme quoi, le hasard, des fois, fait bien les choses.
Non, aucune.
Donc, sur ces saisons passées à la tête du club, vous avez un peu tout connu en termes d'émotions.
Mmh. Oui, on peut dire ça.
À quelque chose près, la relégation nationale au titre l'année suivante. Comment vous vivez tout ça?
C'est un peu pour ça que j'ai pris cette fonction, ressentir des émotions. Et quand on est à la recherche d'émotions, c'est normal qu'elles ne soient pas toujours toutes positives. Donc là, c'est bien résumé. Elles ont été très, très, très négatives et très positives. Mais globalement, non, moi je suis content. Je suis content parce qu'en fait, je récolte beaucoup d'émotions sans avoir besoin de beaucoup m'investir en termes de temps de travail. C'est surtout Johan qui travaille et ses équipes. moi je finance le travail qu'ils font et je récolte les émotions.
Johan, toi, ancien joueur de l'USM, comment tu es arrivé? Alors, tu étais chez Pro, hein, entre ta carrière de joueur et celle maintenant de directeur général, ça s'est passé comment ça?
Avec le président Maillard, on s'est rencontrés après un match où avec Pro, on était là à une table, on m'avait présenté, donc je savais bien matché, mais voilà, on parlait de tout et de rien sur le rugby. Et le président a une idée. En fait, je me suis retrouvé à être invité en tant qu'ancien joueur au barbecue des familles, qui est en juillet à la fin de la préparation physique. Et le manager de l'époque, qui était Florian Ninard, demande à 6, 7, 8 joueurs qui étaient sur Montauban de venir, et avec leur famille. Donc on se retrouve là, et le président fait un discours sur adressé aux femmes de joueurs, en disant qu'on allait les aider, qu'il fallait qu'elles soient bien dans leur basket, pour que les joueurs soient aussi bien dans leur basket, et qu'ils allaient monter une association. Donc j'étais avec mon épouse, Virginie, et aussi il dit, mais à ceux qui ont plus de 30 ans, la reconversion, il faut y penser, donc on va aussi faire quelque chose, que cette association soit... Voilà. Et donc je lui avais dit à l'époque, ça me plaît ce que vous avez dit, parce que j'ai un poste à responsabilité dans un grand groupe, je suis en capacité de recruter, et je le fais déjà. Et mon épouse est chef d'entreprise, et on est ensemble depuis qu'on a 19 ans, donc on connaît la carrière de joueur de rugby, la reconversion, les hauts, les bas, les difficultés, et donc on veut participer à cette aventure. Donc on se retrouve dans l'association de la vie en vert, qui existe toujours. Et de bon an mal an, ça nous fait... j'avais une autre facette dans le club, j'étais entraîneur des minimes de l'USM. Et bon an mal an, on se retrouvait sur des occasions à discuter. Et un jour, donc, il m'a appelé et il m'a demandé... au départ, c'est vrai que c'était très sportif, de voir si je pouvais intégrer le club sur quelque chose de très sportif. Et j'ai dit non, moi, je n'ai pas ces diplômes-là. Je ne suis pas entraîneur, j'entraîne les jeunes, ok, mais je ne suis pas non plus entraîneur professionnel, tout ça. Et ce n'est pas ma compétence et ce n'est pas mon envie. Me faire des vidéos toute la semaine, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc ça n'est resté là. Et quelques mois plus tard, quelques mêmes années plus tard, je crois que c'est un an et demi plus tard... c'est un homme intelligent et ça a fait son chemin. Et il est revenu à la charge en disant, voilà, moi, j'ai vraiment besoin d'un bras droit. Et donc là, j'ai bien compris ton profil. Donc, c'est la direction du club que je te propose. Donc là, ça a été surprenant pour moi, parce que j'étais complètement sorti du rugby à part le rugby à 7. Sur le haut niveau, je parle. J'étais dans le haut niveau à 7, mais dans le rugby à 15, j'étais supporter de Sapiac. Et voilà, et Montalbanais. Et voilà, donc bon an mal an, j'étais assez pragmatique, je lui ai posé plein de questions, et pourquoi moi et pourquoi tout ça, et voilà, donc et voilà, au final j'ai trouvé la demande sympathique, mais il fallait bien s'engager, et je pense que les trois dernières années, surtout les deux premières, ont été très engageantes, et voilà, donc j'ai accepté de changer de vie et essayer de relever ce défi-là, mais non sans mal.
Si je peux me permettre de compléter, puis peut-être de, oui, de rajouter quelque chose que Johan, par délicatesse, ne dirait pas, c'est que quand je l'ai recontacté à l'époque, pour moi, le rugby à Montauban souffrait de trois problèmes. Un manque de bonne collaboration entre l'asso et les professionnels. Je ne vais pas répéter ici toutes les histoires qu'il y a eu, mais je pense que certaines d'entre elles vous sont remontées aux oreilles et que quand je dis que l'asso et l'ASA ne s'entendaient pas, vous voyez de quoi je parle. Le deuxième problème, les relations avec la mairie étaient déjà difficiles. Et puis le troisième problème, je m'étais entouré par le passé de directeurs qui n'avaient pas une bonne culture de rugby. Pour moi, il s'agissait d'être manager, d'être gestionnaire, et ça suffisait. Je me suis rendu compte que non, dans ce métier-là, il faut que le patron soit une grosse connaissance de rugby. Et donc, j'ai embauché Johan pour qu'il règle quelque part ces trois problèmes. Il avait été candidat à une époque sur une liste barège, donc je me suis dit, moi, je ne m'entends pas avec elle, mais lui, peut-être, il va y arriver. Donc ça, c'était la relation avec la mairie. Il était entraîneur des minimes, comme il l'a dit, donc l'asso, il la connaît comme sa poche. Et puis ensuite, il a été rugbyman professionnel pendant 15 ans. C'est une grande famille de rugbyman, donc je me suis dit, le rugby, il connaît. Donc j'ai dit, c'est l'homme de la situation, et c'est lui qui sera le patron du rugby à Montauban. Voilà. Alors, les choses avec l'asso ne sont pas allées aussi vite que ce que j'aurais souhaité. Elles ont avancé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à ce qu'ils prennent la main sur la fonction rugby à Montauban. La relation avec la mairie est passée de très mauvaise à entre encourageante et excellente.
C'est pas mal.
C'est pas mal, hein. C'est 25 ans ou 30 ans de connaissance de rugby, et son parcours, vous l'avez suivi bien avant moi, donc j'en parlerai pas, vous le connaissez.
Si on se retourne un peu sur cette saison passée à Top 14, on est tous d'accord de se dire que c'était presque à l'insu de votre plein gré qu'on s'est retrouvé en top 14, avec toute la joie que ça nous a amené, ces phases finales de Pro D2. Comment vous jugez, alors des points peut-être de vue différents, des angles différents, cette saison de top 14? Qu'est-ce qu'elle a pu, malgré les déboires sportifs, qu'est-ce qu'elle a pu amener au club?
J'ai senti que vous avez pensé que le top 14 était peut-être un peu inattendu, et je l'ai dit en arrivant, quoi, oui. Donc vous ne pouvez pas être étonné, je vous l'ai dit. Et vous savez, dans la vie, la dose de chance et la dose de malchance, elles s'équilibrent. Peut-être on a eu un peu de chance il y a un peu plus d'un an de gagner ce titre, c'est vrai, hein, mais je pense que les années qui précèdent, on a été un peu poursuivi par la malchance. Il y a des choses qui auraient dû bien se passer naturellement, avec des entraîneurs qui sont arrivés, qui certes n'avaient pas un gros CV, mais qui, s'ils avaient été bien accueillis, bien intégrés, soutenus par toute une ville, on aurait peut-être eu de meilleurs résultats. Or, le seul soutien qu'ils avaient, c'était le mien, depuis Figeac, donc c'était pas facile. Donc je pense que sur 6 ans, la chance et la malchance, c'est comme dans une saison de rugby, ça s'équilibre. La saison, c'est évident, elle a été difficile. La raison principale pour laquelle elle a été difficile, c'est que, contrairement à beaucoup de promus ces dernières années qui se préparent depuis de nombreuses années, nous, on ne s'est pas préparé. ça nous est tombé dessus un peu au moment où on s'y attendait le moins. Au mois de mai, au mois de juin l'année dernière, on a eu très peu de temps pour se préparer. On a assez vite, tous les trois, Sébastien, Johan et moi, convenu que la meilleure solution, ou en tout cas la moins mauvaise, c'était de faire confiance à cette équipe qui nous avait apporté beaucoup de plaisir et qui avait été très fort pendant un mois. On a considéré que cette équipe n'était pas au bout des progrès et on s'est dit on va la faire progresser et on va faire la saison avec cette équipe. Bon, c'est l'option qu'on a prise. Il y en avait une autre. C'est, comme font beaucoup de promus, trouver des moyens pour dégager grosso modo le tiers du vestiaire pendant l'intersaison, de le remplacer par un tiers qui est meilleur que le tiers qui part. Ça coûte de l'argent, ça coûte des compétences et du temps. Et là, on n'avait pas de temps. Ça entame l'affect d'un vestiaire qui vient d'être champion et bon, comme remerciement, leur dire ben, y a le tiers d'entre vous qu'on dégage et qu'on remplace, c'est quand même assez compliqué. Mais quand même, j'observe que c'est souvent la manière que font les promus. Quand j'ai vu dernièrement là, que Narbonne a 29 départs.
29.
Alors, il y a 4 ou 5 départs en retraite, des types qui arrêtent. Il y a 4 ou 5 départs dans des clubs un tout petit peu plus prestigieux que celui de Narbonne. Mais après, tout le reste, c'est des gars qui ont dit bah, écoute, merci pour le titre, mais c'est fini. Et ils ont 29 départs et je crois qu'ils ont 25 recrues.
Après, le risque de fonctionner comme ça, c'est que ben, s'il y a redescente, comme malheureusement on pouvait le craindre, c'est de se retrouver avec des masses salariales pour l'année suivante impossible à baisser, avec des revenus. J'imagine qu'entre la Pro D2 et le Top 14, il y a des différences de revenus, de droits télé, ainsi de la Ligue, et ainsi de suite.
En Top 14, c'est évident que la dépense au niveau de la masse salariale est bien plus importante qu'en Pro D2. De toute façon, vous l'avez vu, hein, les 80% des clubs de Top 14 sont au salary cap ou proches du salary cap, c'est-à-dire 10,7 millions d'euros, je crois, de masse salariale, alors que nous, la nôtre est à 4 millions, donc on est effectivement très loin. Donc en Top 14, il y a des dépenses supérieures à la Pro D2, mais il y a aussi des recettes qui sont bien supérieures à la Pro D2. Les recettes sont les droits de la Ligue, la dynamique qu'on peut aller chercher avec les partenaires qui payent plus quand ils sont en Top 14 qu'en Pro D2, et puis le public. Et globalement, ce bilan financier, il est largement positif. Et si vous me demandez mon avis sur le plan financier, où il vaut mieux être, en Pro D2 ou en Top 14, je vous dis, il n'y a pas photo, c'est en Top 14.
Et pourtant, c'est pas ce que vous avez dit dans la presse.
Ah, si, si.
Que finalement, c'était pas si. Vous n'aviez pas si gagné tant que ça, finalement, non, en Top 14. Ah,
moins dépensé.
Qu'il n'y avait pas eu tant de retombées que ça, si.
Ah, si, si, si. Si. Bon. Ou alors. Soit c'est le journaliste qui a mal traduit ma pensée, ou c'est vous qui n'avez pas bien lu l'article, je ne sais pas.
Moi, je l'ai lu, j'ai compris la phrase, mais ça a été en fait, on a remplacé l'apport du président par le Top 14.
D'accord.
Donc le président, ça lui a coûté moins cher.
Ouais. D'accord.
Voilà, ouais, mais le budget en lui-même est Top 14, vu qu'on avait le plus gros 90% d'un budget dans un club, c'est la masse salariale.
Ouais,
et donc
sûr.
Comme on ne l'a pas. On l'a fait monter de 1 million sur 14 millions de budget, c'est pas voilà bon. Et donc voilà, donc sur ça fait que oui, on a gagné plus d'argent, enfin plus d'argent, on a gagné de l'argent, mais c'est de l'argent qui était compensé en Pro D2 par le président.
D'accord.
En fait, j'ai personnellement et mes sociétés, les deux réunies, ont mis moins d'argent la saison où nous étions en Top 14.
D'accord.
Que les saisons précédentes en Pro D2. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire dans l'article, ouais, ouais. Mais effectivement, il y avait une espèce de jeu de mots qui était peut-être pas très clair. Je crois qu'il me dit vous avez rempli les caisses. Je crois que je lui ai répondu non, j'ai évité qu'elles se vident, qu'elles se vident autant qu'avant. Quoi.
Bon,
donc moi, je savais exactement ce que ça voulait dire. Mais je comprends que quand on lit le truc et qu'on n'est pas complètement au courant, on peut ne pas trop comprendre ce que j'avais en tête.
On peut dire que c'est une saison positive, malgré le sportif.
Sur le plan financier, c'est une saison très positive. Sur le plan affectif, on va dire, du soutien du public, c'est une saison complètement extraordinaire. Moi, je pense qu'on doit être probablement le seul public de France qui, à la 82e ou 83e minute, quand vous avez pris 80 points, encourage son équipe. Enfin, des fois, je me dis, mais ils sont... on a trié les fous pour les mettre chez nous, quoi. C'est pas normal, quoi.
Non, il y a des passionnés à Sapia, quand même.
Hein?
Il y a des passionnés à Sapia.
Donc, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et même si je me fais aucune illusion, hein, peut-être dans 6 mois, on va voir une banderole, président dehors, etc. Johan, etc.
Non.
Bon, enfin, je le pense pas, mais je sais que le public, et en général assez extrême. Mais en tout cas, moi, j'ai été très, très, très touché par le comportement du public, et c'est ce qui, du côté affectif, me restera de la saison.
Ouais, et puis ce titre, toute la ville, plus que le public, la ville entière, ça a été extraordinaire de revoir sa paire comme ça.
Le Tarn-et-Garonne.
Ça a remis un coup de le Tarn-et-Garonne.
Pas comme tout le monde.
Il faut dire qu'un an avant, on était quand même tous très inquiets. On espérait que vous restiez, même si vous ne connaissez pas, parce qu'on voyait que ben, y avait du boulot qui avait été fait, que vous aviez aussi injecté vos deniers. Et on était très, très inquiets, parce qu'on a dit, si jamais le club venait à descendre et que M. Maillard en est mort, on ne savait pas où on allait.
Je peux vous le dire maintenant, et c'est peut-être facile à dire maintenant et pas forcément crédible, mais au moins Johan, lui, il sait ce qui s'est passé. Si nous étions descendus, je serais resté. Ce qui était... c'est pas l'échec, moi, qui aurait été difficile à supporter, parce que on fait un jeu. Donc, oui, par définition, le jeu, vous gagnez ou vous perdez. Donc, si vous acceptez de jouer, il faut aussi accepter de perdre. Donc ça, la descente ne m'aurait pas fait partir. Ce qui m'aurait fait partir, c'était que je finissais par être excédé par des relations extrêmement pénibles avec Barège et sa suivante, où j'avais le sentiment de ne pas être reconnu pour le travail que je faisais, reconnu pour le soutien honnête que je faisais pour le club, et en face j'avais une paire de personnes qui étaient là pour essayer de me faire payer le plus possible. Quand on vous multiplie par 11 la redevance qui était 35 000 euros et qui passait à 370 000 euros, et que pour aller la négocier, on part en réunion et on passe 1h30 pour entendre 2 personnes qui nous expliquent à l'un comme l'autre qu'on gère mal nos affaires, que pour dégager l'argent, pour passer de 35 000 à 370 000, c'est pas compliqué, il faut payer les joueurs moins cher, il faut secouer les commerciaux pour qu'ils aillent chercher un peu plus de partenariats, et puis ensuite il faut restructurer l'équipe, le club avec moins d'improductifs pour faire des économies. Qu'on passe 1h30 à se faire traiter quasi d'incapable, ça fait un peu chier quand même. C'est assez difficile à supporter. Que quelques mois avant ou quelques mois après, on reçoit une lettre d'une page et demie qui nous explique que la mairie veut s'impliquer dans le recrutement de notre staff, ce qui est quand même un sacré camouflé pour ce que je voulais faire en disant à Johan, tu viens et tu seras le patron du rugby. Peut-être 2 ans après, il reçoit une lettre du maire qui lui dit, non, Johan, tu vas pas t'occuper du recrutement, on va s'en occuper avec toi. C'est ça qui m'aurait fait partir. Heureusement, ça s'est arrêté. C'est très bien, mais c'est... Enfin, vous voyez, si j'en parle de manière pas très habile, je n'en sais rien, c'est parce que j'en ai gros sur la patate. Hein.
On comprend. Et nous tout ça, on n'est pas au courant.
Mais ce qui nous inquiétait... Maintenant, vous l'êtes.
Ce qui nous inquiétait, c'est les performances rugbystiques. Parce qu'on sait quand même un temps ennuyé au stade.
Alors, je vais prendre le relais sur ça, parce que c'est ma fonction de parler de sport. Moi, j'ai envie de dire merci à ceux qui sont passés au club, parce que c'était pas simple. C'est vrai qu'on est toujours dans la culture du changement. Et le président est arrivé, a mis une dimension au club. Moi, quand je suis arrivé, le premier constat que j'ai fait, j'ai dit, vous avez un peu fait sortir le club de sa ville. C'est-à-dire que je reconnais les lieux, parce qu'ils n'avaient pas changé depuis que j'étais parti il y a 15 ans. Mais vous avez fait grandement grandir les effectifs et les gens qui étaient couteaux suisses qui faisaient tout. Était maintenant spécialiste dans certains secteurs et des nouveaux salariés arrivaient pour faire le reste. Et ces salariés n'avaient pas forcément la culture du club. Il fallait grandir, il fallait se professionnaliser, il fallait aussi. Et aujourd'hui, les lieux qu'on habite, comme le centre d'excellence ou le stade qui a évolué, mais qui évoluera encore, donnent cette image de club professionnel. Et le top 14 nous a assis aussi dans voilà ce qui reste, le parcours qui reste à faire. On est un club pro, ne vous en doutez pas. On veut être un club authentique. On est le club un peu terroir, mais on est un club pro. Et ça, moi, c'est quand je suis arrivé, c'est ce que je leur ai dit. Moi, j'étais professionnel de rugby. Et je ne t'ai pas fait tard. Donc aujourd'hui, c'est une qualité. C'est un défaut quand je joue. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je suis peut-être même des fois peut-être un peu trop psychorigide sur la vision que j'ai du rugby pro, mais parce que c'est ça qui me plaît, c'est construire des trucs et être reconnu dans la performance. Et donc, le staff, bien sûr, il y a des exigences, il y a des ambitions, il y avait des objectifs internes, ça ne me dérange pas. Externe, on va viser le plus haut et chaque fois on avait la pression. J'ai découvert un club qui avait une pression négative, une chape de plomb sur la tête et un staff qui, à la fin, s'est retrouvé des managers partaient, des turnovers se passaient aussi dans l'administratif parce qu'ils ne comprenaient pas forcément où c'est qu'ils allaient ou comment ils le faisaient, ou ils n'étaient pas bien accueillis aussi. Il faut le dire, il faut savoir se dire les vérités. Ils n'étaient pas bien accueillis parce que la culture du changement bousculait un peu tout le monde jusqu'à l'environnement du club. L'association, on en a parlé, l'ASA, c'est comme dans tout club de vitesse. L'association, ça forme et c'est du long terme, donc c'est lentement mais c'est sûrement. L'ASA, elle doit remettre son titre en jeu tous les week-ends sur les terrains de Pro D2 ou de Top 14 parce que c'est du business. Tout ça fait que chacun se cherchait, chacun se reprochait les choses et ça a aussi amené des choix de rupture avec certains entraîneurs qui avaient les responsabilités. Et à la fin, on s'est retrouvé avec un staff, comme on disait, multifeuille. Et des adjoints qui étaient là avec un manager qu'ils n'avaient pas choisi. Inversement,
et après avec un autre, ouais.
Franchement, ils ont tous essayé. On a tous fait des réunions de crise, on s'est tous regardé dans le blanc des yeux, on a tous essayé de se dire bon, on y va ensemble, on s'est pas choisi mais on y va ensemble quoi. On essaie de trouver, enfin, l'esprit rugby, quand on joue le maintien, tout le club se met en mode maintien et on fait ça. Mais il y avait quand même un manque de communication pour le surplus d'énergie, le surplus d'âme, et ça le vestiaire l'a ressenti, et ça le vestiaire l'a et immiscé dans les failles entre le staff et ne comprenait plus. Alors quand un joueur joue pas et dit ouais mais et que le staff dit mais c'est pas moi qui était quelque chose qui a fait l'équipe, c'est pas ma faute, voilà. Donc c'est compliqué. Donc on a mis Lulian, Pépé Lafond a mis de l'autorité, cette autorité qui était nécessaire. C'est aussi retourné contre lui parce que il a bousculé les lignes, mais il n'avait pas un staff, c'était pas son staff. Il s'est un peu isolé.
C'est le gros problème.
Il s'est un peu isolé. On a essayé de l'accompagner, mais c'est vrai qu'il y a eu une chute en avant de 15 défaites qui fait que ça a changé tout le projet et on a été obligé de repartir. Et pour repartir, il fallait le président a pris des décisions qui étaient logiques. Malgré qu'on voulait être dans une continuité, parce que c'était ça que je voulais, moi, que ce soit la continuité. Voilà, donc on a recruté un nouveau staff. Et ce nouveau staff, c'est celui qui est là actuellement, qui était à l'époque celui qui avait perdu justement la descente. Mais alors, j'ai tout mené en parallèle. Il n'y avait pas que le staff à Seb sur la liste, il y en avait d'autres. Qui sont Mathieu Bonello, Alexandre Albouy, Vincent Etcheto, Nicolas Godignon.
D'accord.
C'était les quatre. J'avais, bon, après, j'en ai eu 40 avez... demandés.
Ah ouais.
Mais là, on était dans une... J'ai fait en sorte, en fait, de me retrouver isolé de toute la partie agent. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rentrer avec moi grâce à un agent. Il pouvait me parler. Voilà. Et donc, par le réseau rugby, voilà. Et après, j'ai dit, si vous m'intéressez humainement, là, on commencera à parler argent. Et donc, on
même,
est allé...
même les staffs fonctionnent avec des agents.
Ah oui,
ah, d'accord.
Surtout, ouais. Surtout.
Ah, surtout,
plus que les joueurs.
D'accord. Ouais. C'est ce qui fait que les mois, d'accord. Okay.
Il y a un groupement d'agents, qui est le plus gros de France, qui a 99% des entraîneurs.
D'accord.
Donc, quand vous parlez avec les entraîneurs...
Et l'agent avec...
Les quatre avec qui je parlais...
Ils avaient le même agent.
Ils n'avaient pas le même agent, mais ils étaient dans le même groupe d'agents. Ah, ouais. Ce qui fait que je pouvais parler de ça avec l'un et l'autre.
On était au courant.
Le chef était au courant. Oui, pas les agents entre eux, mais le chef des agents était forcément au courant. Mais ça fait partie...
Ouais, c'est comme ça.
Ça fait partie... Bon, moi, c'est la première fois que je recrutais un staff. Le premier changement qu'il y a eu, il était interne, où Pépé Lafont était monté entraîneur de la première, mais était déjà dans le club. Donc, oui. On ne l'a pas recruté. C'était un choix, qui s'est imposé sur une autorité. On cherchait de l'autorité, il y en avait. Donc, voilà. Mais... donc là, il fallait vraiment faire des démarches de recrutement. Et donc, j'avais affaire... Et il y avait un prérequis, c'était le manager devait venir avec son staff. Voilà, c'était le prérequis.
Ça, c'est vrai que ça fait partie des choix forts que vous avez fait. Parce que c'est vrai que jusqu'à là, il y avait des gens, comme tu le dis, avec des compétences, mais qui arrivaient soit de l'extérieur, soit comme Pépé Lafont, qui connaissaient le club, mais isolés, effectivement. Et là, quand le staff est arrivé ensemble, c'est vrai que nous, on les a reçus,
au
tout début, et on a quand même senti que c'était en accord avec vous. Et eux, ce qu'ils allaient faire, c'était clair. Quoi.
Même si on parle d'argent et de tout ce qu'on veut, il y a la fibre humaine. Ouais. Et je pense que tu as fonctionné comme ça. Nous, on les a reçus.
Ils sont
super, c'est trop.
La première,
ils sont top. Ouais. Je ne sais pas comment tu as ressenti le truc. Mais
si on les a recrutés, c'est parce qu'on a eu la même.
Vous avez été conquis de suite.
Moi, je recrute au savoir-être. Il y a la compétence, bien sûr, d'aller au niveau.
Oui,
bah
après,
quand j'étais chez ProAPro, j'ai dû faire 300-400 recrutements en 10 ans, parce que ce sont des grands entrepôts avec des grands volumes d'équipes. Et le savoir-être, pour moi, les entretiens d'embauche, je demande d'abord qui ils sont, comment ils sont. Par exemple, Seb a été très comme il est, très professionnel. J'ai le droit à un joli PowerPoint avec le club, tout ça. Et si les ambitions, et comme ça, et voilà. Là. J'ai dit, OK, si je change le logo, c'est pareil. Donc j'ai dit, mais toi, t'es qui? Et donc on a commencé à discuter, mais j'ai dit, on va arrêter là, et on se revoit dans une semaine. Et là, cette fois-ci, tu me diras, ça s'est très bien passé, c'est le premier entretien, était très bien. Mais j'ai dit, voilà, j'avance, t'es en concurrence avec d'autres. Le prochain entretien, je veux savoir qui est Sébastien Tiusbord, parce que moi, je l'avais joué. J'avais joué contre lui, mais je ne savais pas qui était l'homme, tout ça. Et après, il s'est préparé et il m'a dit, voilà, moi je suis un mec comme ça. J'ai dit, OK. Voilà, et j'ai fait ça avec tout le monde. Et certains, je les connais c'est un peu plus. Mathieu Bonello, par exemple. Ouais. Alexandre Albouy, qui était des Tarnais. Donc le chemin a fait son office, mais sur la partie, alors on pensait pas vraiment faire cette saison. Moi j'avais dit à Seb quand on le recrute, j'ai dit, il faut que tu remettes l'humain au centre de tout. Voilà. Les gens sont compétents, mais il y a besoin d'humains dans le vestiaire. Surtout, il y a besoin d'un staff uni. Donc ça, c'était assez simple pour lui, parce qu'il est arrivé... On avait tous les avantages. Des clubs comme nous, ce que j'ai connu dans mon passage à l'USM, avec Laurent Travers, Laurent Labitte, ils venaient chercher des revanchards. Des mecs qui jouaient, mais qui avaient envie de voir autre chose, tout ça. On est tous revanchards. Mais là, on avait un staff qui avait... fait une seconde partie de saison super, bien aidé par l'USM, parce que si l'USM gagne 3-4 matchs de plus, ils sont distancés, et je pense que Seb n'aurait pas pu donner au vestiaire de Rouen l'énergie en disant, vous allez voir, on n'est pas loin, on va y arriver, on va les repasser devant, et à une pénalité près, ils le font, mais parce que nous aussi, on descendait, en février, contre Agen, on ne prend pas la transformation en coin, on gagne, peut-être qu'on remet une dynamique, on fait 2-3 victoires de plus, même si c'est une sur 4 matchs, Rouen est à la trappe au mois de mars.
Oui, oui, oui.
Donc, et c'est pas la même histoire derrière. Par contre, ils ont eu cette énergie et la phase de retour, ils ont avancé. Et ça, quand on se renseigne en interne au club et dans le vestiaire, parce qu'on a tous des connaissances, on sait qu'il a pris le vestiaire, ils ont pris le vestiaire, qui était contre eux au départ, parce qu'il y avait le départ de Nicolas Godignon. Et j'ai eu la chance aussi de parler avec Godignon, qui a été quelqu'un d'honnête. Ainsi dit, il s'est pris la baffe de mon départ par les dirigeants de Rouen, où le vestiaire ne l'a pas accepté, et ils lui ont reproché à lui, alors que ce n'était pas normal. Sébastien Tisseboire n'avait rien fait, n'avait rien demandé. Il est arrivé, voilà, et il a réussi quand même à changer le cours, à force qu'ils ont vu qu'il était comme il était, comment il bougeait. Et bien les mecs, ils ont dit, bah, parce que ça avait mal démarré.
Ouais,
enfin, tout ça a fait que on se disait, bon, il y a quelqu'un. Après, bon, international, champion d'Europe, champion de France, oui, enfin, quand il parle rugby, il y a ça aussi, quoi. Ouais. Il nous a appris des choses aussi, hein, oui, pas la prétention de lui apprendre des trucs. Mais... Ouais. Et voilà, donc tout ça fait que l'un dans l'autre, ça s'est passé avec les aléas de tout, hein, des quatre dossiers qu'on a gérés. Et ce qui m'a plu, c'est que de suite, dès le stage de cohésion début août, il y avait 2 jours de cohésion pure, pas de rugby, et 2 jours de rugby. Alors, pas dans l'ordre, mais ça se mélangeait les deux. Et donc, quand il y avait cohésion, il y avait cohésion. C'était rafting, des trucs comme ça. Mais... Et il a vraiment mis, on a fait exprès de ne pas lui donner une cartographie du vestiaire. On a dit, il y a des gens, ils ont des compétences, il y en a qui ont été bons, il y en a qui ont été très mauvais, rugbystiquement, mais aussi humainement. On ne te dira pas qui, on te dira, tu te feras ton propre constat. Aujourd'hui, la sensibilité est la même que l'ancien manager sur certaines choses, mais donc ça c'est un constat que je fais en tant que directeur. Donc ça veut dire qu'avant il n'y avait pas non plus de... C'était une autre atmosphère qui faisait que ça n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, ça a permis à Seb de rentrer dans le truc avec le staff sans a priori, sans que nous, qui étions aussi en souffrance, hein, ils avaient souffert d'une descente, nous on avait souffert de se dire mais qui on est en fait ? On fait plein de trucs, mais en fait, on se...
ouais, plus on avance, c'est pas, plus on descend. C'est pas nous, à un moment voilà. donné, tu te poses voilà. aussi la question.
Et donc, et là, tout le monde, les joueurs les premiers aussi, ça aide Seb, tout le monde s'est mis au diapason. Parce que moi, j'avais dit aux joueurs, avec bienveillance, mais c'est quand même assez strict, j'ai dit, il y a un nouveau staff qui arrive, c'était une demande de votre part, c'est fait. Aujourd'hui, s'il y en a un qui remet en cause le projet, ce n'est plus l'entraîneur qui le rend face à. C'est moi. Et moi, je peux faire d'autres choses que l'entraîneur n'a pas le droit de faire. Voilà. Donc, restez tous à votre place. On a bien vu que quand chacun parle et parle trop, on se retrouve dans des situations comme on a vécu. Donc, ça a mis tout le monde au calme. Mais bon, franchement, 15 jours après, tout le monde a oublié parce qu'ils ont enclenché le staff. Et tout le monde a dit, mais c'est génial.
Ça a pris de suite.
Tu parlais d'humain. Ce qui ressort le plus quand on côtoie ce staff ou quand on les croise, et je pense que alors nous, on a eu les chances de les recevoir ici, on a mangé ensemble, c'était... Mais pour le public, c'est pareil. Ils sont quand même très proches. Très accessible, ils discutent avec tout le monde, on peut les croiser n'importe où, au bord de terrain de l'école de rugby, ils sont disponibles et accessibles. Donc je pense que aussi, alors pour le vestiaire c'est une chose, mais pour l'entourage du club, pour les supporters, je pense que ils ont fait immédiatement l'unanimité à ce niveau-là. Quoi.
C'est ça, et Seb avait des vrais relais. Il a des vrais adjoints. Alors, je ne dis pas que d'autres étaient faux, mais comme je vous disais, ils ne se sont pas connus.
Là, ils arrivent ensemble. C'est une équipe.
Et s'il y a un joueur qui n'est pas content de la situation, il a affaire au manager, mais l'adjoint peut être aussi le relais de suite en disant non, là, tu te trompes, c'est comme ça, crois au projet, avance. Et les joueurs avancent. Et après, bon, il y a le jeu, il y a la technique, il y a tout ce qui va avec. Mmh. Et on avait quand même un bel effectif. Le président, depuis qu'il est arrivé, a toujours donné les moyens au club de recruter. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait cette. Les nouveaux joueurs qui avaient un niveau certain, comme on ne gagnait pas, n'avaient pas une image positive de l'USM. Je ne dis pas qu'ils n'aimaient pas l'USM, je dis qu'ils ne savaient pas s'ils avaient atterri au bon endroit. Quand on arrive, qu'on est recrue et qu'on ne joue pas les objectifs qu'on a cités. Et il y avait les anciens joueurs qui ont connu la gloire bien avant, à l'USM, donc connaissaient tout le bénéfice ou la bienveillance de l'USM et l'aura positive quand ça marche autour de la ville, ce que maintenant on voit tous, mais eux croyaient et disaient on va quand même y aller, mais ça se passe à coup de... On avait, si je parle un peu plus cru, il y avait une partie du groupe qui disait les gars, pour être ensemble, il faut que le soir on soit ensemble après le match, on aille boire une bière. Et une autre partie qui disait, ouais, mais d'abord, il faut aller à la muscu, faire les allers-retours sur le terrain pour être comme ça et pour pouvoir gagner les matchs le week-end. Donc, il y en avait qui étaient très professionnels, parce qu'ils arrivaient d'univers très professionnel. Et il y en avait d'autres qui disaient, nous, on a réussi, pas que ça, bien sûr, c'est des bons joueurs, mais on a réussi à la connexion. Et ça, ils avaient raison les deux. ils avaient raison les deux. Il y en a qui étaient un peu trop dans l'excès dans la connexion,
d'autres
qui
étaient trop dans
et c'est ça la culture du changement. C'est qu'il a fallu faire grandir, faire évoluer. Et ça, on le vit encore à travers les sites, encore une fois, qui changent. Et on le vit aussi. Maintenant, on a aussi côté background, c'est-à-dire l'administration. On a des gens qui ont maintenant 4, 5 ans, 6 ans de club, qui se sont imprégnés, qui habitent, qui sont montalbanais, qui ont compris qui on était, parce qu'on est quand même un club aussi un peu à part. Hein. Enfin, un club, une ville. Maintenant, ils sont sapiakens. Et ils sont adoubés comme ça aussi. Et donc, ils sont aussi bien à leur basket parce qu'ils disent, ça y est, notre nouveau job, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est au club, on est moins critiqué parce qu'on a compris comment ça marche. Chacun a mis de l'eau dans son vin. Et, voilà. Et après, le top 14 nous a aidé à tout ça.
Donc, on parlait de staff.
Ouais.
On sait un peu que le staff arrive en fin de, contrat, juin 2027. On est sur... des discussions avec le manager ?
Oui. Donc, avec Seb, ça fait longtemps. On ne s'est pas pressé. On a attendu la fin de la saison. Ça fait longtemps qu'on est d'accord sur... on est d'accord. C'est un grand mot.
D'accord pour essayer de trouver un accord pour
poursuivre. Voilà, c'est ça.
Voilà. Ah, mais c'est déjà pas mal. Quand les deux parties sont d'accord pour se parler en toute franchise pour essayer de poursuivre l'aventure... je pense qu'il y a de très grandes chances qu'on puisse arriver à un accord rapidement. Et une fois que l'accord avec Sébastien sera pris, c'est Sébastien qui proposera son futur staff, qui devrait être très 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 proche du staff actuel.
Ou identique, on ne sait pas.
Ouais, c'est une bonne nouvelle.
Très
proche ou identique, parce qu'on ne le sait pas. Mais enfin, voilà, là, c'est comme dans tous les clubs. D'abord, le manager... Et le manager, il fait des bilans il nous dit j'ai envie de faire ci, de faire ça. Il n'a pas, bien sûr, l'aspect financier, ça c'est nous, parce qu'il faut quand même le préciser. C'est pas lui, quand on dit le manager choisit ce mec, il choisit pas le salaire je le dis pour les auditeurs qui pourraient dire.
Il aide au recrutement, voilà. Il propose au recrutement,
je parle qu'il choisit pas le salaire de ses adjoints.
Oui,
il dit moi je veux garder un tel, mais qu'un tel dit c'est bon, le manager, ça m'est déjà arrivé. Le manager, il a dit que c'était bon, j'ai dit ok. Mais ça sera ça. Ah ben moi non, mais le manager a dit que c'était bon. Mais c'est pareil, ça sera toujours pareil, ça sera ça. Donc tu fais une choix toi aussi. Je reste le responsable du manager et du groupe. Mais moi je suis là pour garder les finances viables tant que se peut, même si on est sur un modèle économique avec le président qui a amené une dimension. J'ai été recruté pour rendre le club viable. Parce que le but, ce n'est
pérenne.
Pas...
Voilà, pérenne. Viable et pérenne.
C'est ça.
Après,
Donc, j'arrive d'une génération qui a vécu l'accident économique, marqué au fer rouge. Donc, ça me donne la force de regarder tout le monde droit dans les yeux au club. Et voilà, même si on prend toujours des risques, un peu, parce qu'il faut quand même être ambitieux, il faut quand même continuer à pédaler. Mais on fait attention.
Vous êtes content du recrutement l'intersaison ? Ouais.
On aurait aimé recruter Dupont, mais on n'y est pas arrivé.
Non, mais
je
pense qu'on a des souhaits, on ne peut pas arriver à les choper tous, mais vous êtes assez... dans l'ensemble, c'est positif. Quoi.
Ouais. Oui, on a été sur... on a 12 recrues officielles. Après, on a des jeunes aussi, dont on parlera un peu plus à la fin de l'été. Mais on est content, oui, parce qu'on a professionnalisé le recrutement. On a quelqu'un qui nous aide dans le staff, qui a eu cette mission dédiée, ce qui a permis de gagner du temps, tout ça, qui a libéré un peu le temps à Seb. Et ça a permis de vraiment cibler les joueurs qu'on voulait.
Aviez du temps, parce que vous saviez où on allait l'année
dernière. L'année dernière, il n'y avait pas assez.
Vous apprenez qu'on est surpris par l'arrivée de la Pro D2.
Vous apprenez les recrues aujourd'hui. Mais il y en a qu'on signe en octobre.
Hein. Ah oui, d'accord.
Donc ça c'est très vite. Il y a des choix qui ont été très vite faits sur certains joueurs, et parce que c'est ça le début du marché, surtout en 2014.
C'est un recrutement qui est surtout fait à l'initiative du staff, de Sébastien en particulier.
C'est
lui qui a de la qualité. Souhaiterait qu'on recrute un tel. C'est pas nous qui lui avons proposé le recrutement.
Bien sûr.
Donc ça lui sera difficile de dire les recrues, ça va pas. Quoi. C'est quand même lui qui les a faites. Bien
sûr. Après, d'un œil extérieur, hein, encore une fois. Ouais, et puis ça nous paraît pertinent par rapport aux besoins des postes sur la saison qu'on vient de passer. Malgré la qualité de la saison de certains, à certains postes comme 8, on a manqué d'un 8 sûrement qui franchisseur. Ça paraît être le cas avec le tongien australien, enfin, je ne sais plus trop.
Il est de nationalité
néo-Z
et d'origine tongienne.
D'origine tongienne, né à Nouvelle-Zélande et parti jouer en Australie.
En Australie, voilà. Bon, avec un profil que cette année, on n'avait pas. Un talonneur supplémentaire qui paraissait quand même une chose indispensable. Voilà, d'un œil extérieur, le recrutement nous paraît pertinent et bien ciblé. Après, vous le disiez, Sébastien aura son groupe tel qu'il l'a voulu. Au bout de 3 ans, il a gardé ce qu'il a voulu. Il a fait.
Ça sera sa
troisième année. Donc il va avoir vraiment le groupe qu'il a souhaité. Est-ce que c'est quoi les objectifs que vous lui avez fixés, enfin, que vous êtes fixés ensemble, j'imagine?
Je vais parler parce que je fais très attention aux objectifs. Quand je suis arrivé, moi j'avais
pris la parole parce que c'est dit vous là. Si je me laisse parler, il va me mettre dans la merde. Donc, t'as raison, Johan, vas-y.
Moi, quand j'ai commencé, j'avais dit au président, il ne faut pas annoncer la couleur. C'est la génération que vous connaissez, donc il faut être ambitieux. Dans le vestiaire, on se dit les choses, et que si on vient à Sapiac, c'est pour aller le plus loin possible. Donc ça, c'est l'envers du décor, mais il ne faut pas qu'on croie qu'on n'est pas ambitieux. Mais annoncer, ça mettait, comme je disais, une chape de plomb. Voilà. Si on dit top 6, si on est 7e, les gens pensent que c'est un échec. Et tout le monde attend le top 6 toute l'année. Et il faudrait y être dès le premier jour et y rester. Et là, si on y est, bon, ben, au moins tout le monde. Et c'est là on fait attention. Aujourd'hui, on a aussi été dans une saison très bénéfique l'année dernière en étant champion, pour plusieurs critères. Mais elle s'est passée correctement parce qu'on a eu un revers énorme jusqu'au match d'accès. Et quand on a dit au mois de juillet, pour la première fois, parce que c'est compliqué quand on a un président qui met autant d'énergie et de finances dans un club, pour que ce soit un grand club, de dire qu'on joue le maintien. Et là, on a dit on joue le maintien. Et là, comme par hasard, tout le monde nous a cru, parce qu'on a failli à un point à descendre. Et ça a remis le club au calme, dans une croyance. Dans le vestiaire, on avait le top 6 en tête. Hein. On avait le top 6 et même, je vais vous surprendre, Seb, il avait même le titre en tête. Donc, il leur a fait croire tout ça. Et il les a accompagnés à travers l'humain et la technique et les matchs, bien sûr. On a eu un peu de chance. Je pense au match de Biarritz où l'arrière tape directement en touche. Sinon, Biarritz nous tape à la maison et on peut repartir peut-être sur 3 ou 4 matchs de défaite. On gagne ce match. Donc, la machine commence à y croire. Et c'est ce qui nous a manqué cette année en top 14. C'est que c'est les premiers matchs qui nous ont empêchés d'y croire. On était déjà vus comme les imposteurs. Et tout le monde, comme disait le président, tout le monde était heureux qu'on soit déjà en top 14. Et c'est là où je réponds un peu à la première question qu'on a eue. Les gens sont trop heureux. On aurait aimé, pas vivre ce qu'on a vécu quand on jouait le maintien, mais que les joueurs soient un peu portés. Mais de dire, allez, les gars, ils n'ont pas triché.
Une attente plus forte.
Voilà, ils n'ont pas triché. Mais tout le rugby français nous a encensés, mais à dire, vous allez en chier. Et peut-être vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas préparé. C'est une vérité. Mais on s'est quand même préparé un peu. Et Lyon, Montpellier, tout ça.
Ouais, si on gagne, tu fais un crâne.
On crante.
Il y aurait pu 3-4 matchs qui auraient pu sourire. Et dire, finalement, on est capable. La même, mais voilà.
Pour moi, la saison de Vannes, il y a 2 ans, on peut la faire. À la fin, on fait la saison d'Agen où on prend des branlés. À la fin,
ouais.
Parce qu'Agen a marqué moins de points, mais il prenait pas les branlés quand même. Enfin, en tout cas, moins que nous. On a fait ce qu'on a pu faire, mais à un moment donné, le groupe a lâché pas sur les week-ends, mais a été en difficulté en se disant voilà, et surtout à certains joueurs qui quittaient le club et qui cherchaient des clubs, donc ça fait gamberger aussi.
Psychologiquement, la saison est forcément dure pour les joueurs. T'en prends 50 le lundi pour revenir à l'entraînement. C'est...
Et que t'as pas gagné des victoires.
Quand ça arrive une fois, ça va, mais quand ça s'enchaîne mentalement.
C'est plus la conférence européenne qui aurait dû être une bouffée d'oxygène sur certains matchs, ou jusqu'à prendre 40 points à la maison contre les Géorgiens. J'ai rien contre les Géorgiens, mais bon.
Là, on était un peu déçu.
Pour avoir, joué beaucoup d'années à la conférence européenne, c'est plutôt les matchs où tu t'amuses. Tu as les jeunes à côté de toi, tu es les anciens, et tu as les jeunes à côté de toi, tu t'amuses, mais. T'es censé, toi, français, foutre plus de branlés aux étrangers que d'en prendre, et à la maison en plus. Donc on a perdu en Italie, qui était une belle équipe. C'était normal, parce qu'ils ont fait demi-finale, je crois, les Italiens. Et la Géorgie, équipe qu'on ne connaissait pas, mais on n'a pas perdu, on a pris une branlée. Donc tout ça fait que ça n'a pas redonné le goût de la victoire au groupe. Et je pense que les joueurs se sont dit ouais, c'est pas notre niveau, on n'est pas, quoi. C'est pas chez nous. Et voilà.
Ouais, ils se sont presque persuadés que finalement, ils n'avaient pas le niveau.
Voilà, et le match qui nous a plié, c'est Perpignan. On va à Perpignan en ayant mis des moyens énormes en Irlande pour revenir très tôt. Voilà, et à la fin, on en prend 40 à Perpignan, on se fait rouler dessus. Et on était tous meurtris, les joueurs étaient meurtris, tout ça. Enfin voilà, et encore une fois, quand je dis ça, ça me fait chier de le dire, voilà, mais personne n'a triché cette saison. Personne n'a triché. C'est juste qu'ils se sont dit, mais c'est pas de notre niveau. Alors que je pense que oui.
Pour ça aussi, tu dis personne n'a triché, c'est pour ça aussi que le public s'en est rendu compte et que les Montalbanais étaient derrière l'équipe.
Ils étaient derrière jusqu'au bout et qu'ils savaient la difficulté.
C'est ça. Et donc à la question, l'objectif, on descend au top 14. Si je vous dis on joue le maintien, on passe pour des cons. Donc ouais, bien sûr que c'est le top 6, mais c'est de faire la meilleure saison. Mais moi, mon verbatim, ça serait aller le plus loin possible, faire la meilleure saison. Et quand on dit ça, le président pense qu'on est champion de France, moi je pense qu'on est en quart de finale, tu penses qu'on fait la demi, chacun y verra. C'est arriver à faire le mieux possible pour réussir. Voilà. Mais c'est quoi la réussite, hein? Donc, oui. Là où
après, ce qu'on sait, c'est que ce championnat de Pro D2, qui est très intéressant et très exigeant aussi, il est difficile. Vous avez fait le choix l'année dernière de ne pas faire exploser le vestiaire, donc ça, c'est une belle chose, parce qu'on serait peut-être redescendu quand même. Un recrutement qui est très, très intéressant. Aujourd'hui, les gars qui ont été champions de France, ce groupe qui reste dans l'effectif à venir, comment ils se projettent sur la saison à venir, ces joueurs qui ont été champions et qui seront encore là.
Ça, c'est plus à Seb. Moi, j'ai pas ce relation avec les joueurs. Enfin, voilà, ils se projettent ambitieux. L'énergie des nouveaux, ça aussi, hein, l'énergie des nouveaux vont faire que le traumatisme, certains seront peut-être traumatisés de la saison-là. Et donc, c'est les nouveaux joueurs vont amener une autre dimension qui vont permettre à eux d'évacuer plus rapidement le top 14 et dire, ça y est, c'est reparti, on redevient. Et là, maintenant, il va falloir qu'on soit une écurie, quoi.
Oui, parce qu'on aura une certaine pression, la finalité, là, sur en revenant sur de la Pro D2,
après,
qu'on aurait un peu moins en top 14.
La saison piège, elle est cette année.
Et c'est ça.
Pour nous, hein. Ouais, la saison piège, c'est pour ça qu'on a investi. On n'a pas cassé la tirelire non plus, c'est pour ça qu'on a investi très tôt. On a des joueurs de grande qualité qu'il va falloir qu'ils s'adaptent à la Pro D2 aussi, au championnat français, mais à la Pro D2, parce que certains arrivent de première division de leur pays, ils sont parmi des cracks, ils ont loupé des sélections, ils se disent on va à l'Eldorado du rugby, c'est en France, mais si le top 14 ne veut pas de nous parce qu'on n'est pas GIF, donc c'est compliqué d'intégrer le top 14, on va passer par la Pro D2 pour... On tente Montauban s'ils se maintiennent en octobre. Certains joueurs, ils ne savaient pas que Montauban allait peut-être finir derrière. Et sans douter, on a dit les deux scénarios, mais on avait espoir de se dire peut-être que la 13e place, peut-être qu'on va la réussir. Quoi.
Ah bah, tant que Perpignan était derrière, il y avait toujours
donc
cet espoir.
Donc il y a des joueurs qui ont tenté le coup. Bon, ils sont avec nous, ils vont faire un an ou deux ans en Pro D2 suivant leur contrat ou la performance. Et voilà, mais on reste... on reste une équipe légitime aux phases finales, mais on n'est pas plus légitime qu'un Brive, qu'un Aix, qu'un Colomiers. Voilà.
Et puis, on a vu l'année dernière, tout le monde voulait taper Vannes. Toutes les équipes qui ont joué Vannes s'est sublimé contre Vannes parce qu'ils descendaient. Et là, Montauban, malgré tout, descend top 14. Et tout le monde va vouloir faire une belle prestation contre Montauban.
Et en plus de ça, c'est un peu, même si c'est un peu une année une, dans le sens où le staff va avoir ses joueurs pour la première année, parce que sur la première année du staff, ils avaient quand même aussi des joueurs qu'ils n'avaient pas choisis.
Ouais, mais ils ont prolongé 80% du vestiaire.
Ils ont prolongé. Là, c'est vraiment l'année 1 où, en soi, ils ont quand même l'effectif. Donc, c'est vrai que du coup, là, ils vont, c'est complet quoi. C'est-à-dire ils sont restés ensemble.
Il y a de l'attente.
Il y a des joueurs entraînables de la façon dont le voit Seb. Mais Seb le dit, il y a, l'année dernière, on a prolongé. C'est pour ça aussi qu'on est champion, parce que personne ne se posait des questions sur son avenir. 80% du vestiaire ont été prolongés par Seb et le staff l'année dernière. Donc techniquement, lui considère qu'en prolongeant les mecs en interne, il les a aussi rechoisis. Il a confirmé ce qu'avaient choisi les autres staffs avant.
L'heure, ça passe très très vite. Il nous reste que 2 minutes. Juste une dernière question, parce que je pense qu'elle intéresse beaucoup de monde. Le stade de Sapiac, Révolution.
Non, pas révolution, mais évolution. Il y a un an, la mairie a agrandi les gradins derrière les poteaux quand on rentre au stade. On a gagné autour de 1000 places assises. Cet été, on va gagner 1000 autres places de plus assises. Pendant que la mairie investira sur cette extension de gradins, nous, le club, on investira un troisième niveau de loge en face.
Oui.
En termes de montant, je ne vais pas lâcher les chiffres lors de cette émission, mais on peut dire que c'est un investissement à peu près équivalent. Et moi, je suis très heureux de cette décision parce que c'est un travail que nous avons fait ensemble. Et c'est ça qui, pour moi, est important, que le club et la mairie travaillent ensemble. Et ensuite,
il reste 20 secondes.
Faut que vous payiez la soirée avec la pub. Donc, envoyez la pub et payez-nous, on a besoin d'argent.
C'est déjà l'heure de se quitter. Merci, président. Merci, Johan.
Une heure de plus.
D'être venu. Il nous faudrait.
Désolé pour les questions sur les réseaux, il y en avait plein.
On est désolé, on est obligé. C'est déjà fini.
C'est déjà fini. Stop.